Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler du Tchad, de son histoire et de l'histoire de la présence française dans la région, mais aussi des perspectives pour le pays et pour cette présence à la lumière évidemment de la mort récente du président Idriss Déby, j'ai le plaisir de recevoir le chercheur et spécialiste de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi des opérations militaires françaises, notamment dans la région, Michael Shurkin. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Alors Michael, je vais préciser que vous êtes aujourd'hui expert, analyste pour une entreprise qui s'appelle 14North Strategy, mais vous étiez jusqu'à récemment analyste politique à la RAND Corporation, qui est, comme son nom ne l'indique pas nécessairement pour ceux qui ne la connaissent pas, le principal think tank américain spécialisé dans les questions de défense, même si c'est aussi bien plus que ça, et la RAND a de grands liens et une grande importance historique d'une manière générale dans sa relation avec le gouvernement et avec l'appareil militaire américain. Et je suis donc ravi de vous recevoir pour parler de l'histoire et des perspectives géopolitiques du Tchad, car comme on l'a, je pense, compris au moment du décès d'Idriss Déby, c'est un problème qui est compliqué à apprécier depuis la France, qui a une grande présence dans la région et qui s'appuie énormément sur le Tchad depuis des décennies, on va y revenir, mais jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on peut rappeler que le quartier général de l'opération Barkhane se situe à N'Djamena, qui est donc la capitale du Tchad. Donc c'est compliqué parce qu'il y a des intérêts français qui sont clairs dans la région. Il y a une responsabilité peut-être aussi de la France dans la situation politique locale. Et donc je voulais, en organisant cette émission, essayer d'éviter de tomber dans deux travers qui sont un peu opposés. C'est d'un côté la vision purement stratégique, propre à l'appareil militaire français, qui peut parfois être amené à considérer la question sous l'angle du point d'appui nécessaire du Tchad pour Barkhane et pour les opérations militaires qui visent à la stabilité dans la région. Et à passer peut-être un peu rapidement sur les problèmes intérieurs et politiques du Tchad, qui sont très réels. Et de l'autre côté, je voulais aussi éviter de faire une émission qui dénonce tout en bloc les liens de la France avec les régimes successifs tchadiens sur l'autel de la corruption et du soutien à des dictatures, voire de la dénonciation de la France-Afrique. C'est un point de vue qui évidemment est tout à fait légitime et pertinent, mais c'est peut-être un peu limité aussi si on s'intéresse de près et si on veut analyser finement les questions militaires et stratégiques dans la région. En même temps, il faut signaler aussi que c'est vraiment en quelque sorte une passion française d'un point de vue militaire, le Tchad, ou en tout cas c'est un théâtre récurrent, puisque l'armée française y est présente en continu depuis 1986 au moins, puisque avant Barkhane, il y avait l'opération, alors il y a eu Serval, mais qui n'était pas vraiment au Tchad, mais avant Serval, il y avait l'opération Épervier, à partir de 1986 donc. Même avant, il y avait l'opération Manta en 1983, et il y a même eu une intervention entre 1968 et 1972 avant, tant et si bien qu'il est en fait assez difficile de trouver une décennie du XXe siècle où la France n'a pas été présente au Tchad, globalement depuis l'époque de la colonisation. Et pour un problème qui est aussi lié à l'histoire française, je trouve très bien et très utile de décentrer un peu le regard, grâce à vous Michael, et à envisager la chose hors de France, vue de l'autre côté de l'Atlantique, même si on va voir que les États-Unis, et notamment la CIA, ont en fait aussi été des acteurs de cette histoire qui ont été importants. Alors, pour commencer par le commencement, même si c'est pas vraiment le commencement, Michael, il faut peut-être rappeler que c'est évidemment une ancienne colonie française. Le Tchad était au sein de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, et le Tchad accède donc à l'indépendance en 1960. Donc est-ce qu'on peut peut-être dire un mot, alors peut-être de la colonisation rapidement, mais surtout de cette arrivée à l'indépendance, et notamment de la manière dont elle se fait par rapport à la France ? Est-ce que c'est contentieux ou est-ce que c'est plutôt pacifique ? Et dans quelle mesure est-ce qu'en 1960, il est prévu ou prévisible que la France reste investie, disons, dans la région ?
Il y a certaines choses qu'il faut comprendre quand il s'agit de la colonisation française au Tchad, c'est le fait que si on remonte au début, la France n'avait aucune bonne raison pour être au Tchad dès le début. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on se trouvait là au Tchad, c'était une combinaison d'aventurisme, de vanguard, enfin, on faisait de la concurrence avec les Britanniques. Il y avait des officiers français qui aussi voulaient faire des épopées à travers le désert, etc. Donc, il n'y avait pas de raison économique, il n'y avait pas. Les raisons, la mentalité au tournant du siècle, il n'y avait pas de bonne justification. Et dès qu'on se trouvait sur place, à cause du fait qu'il n'y avait aucun intérêt, vrai intérêt économique, il n'y avait pas vraiment de l'investissement. L'administration française cherchait à économiser autant que possible. Donc, on ne faisait pas grand-chose. On n'a pas vraiment fait des investissements dans l'infrastructure. On n'a presque rien fait. Et donc, en ce sens, quand on a décidé d'octroyer l'indépendance à l'État, l'État en étant vraiment l'État colonial, l'administration coloniale, donc c'était de donner les clés de l'administration aux Tchadiennes, enfin aux certaines Tchadiennes, il y avait très peu, parce que l'État, l'administration était vraiment, c'était le minimum, et on n'a pas fait grand-chose pour préparer les gens à se gouverner, à administrer la population. Donc, la transition était pacifique, il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de guerre. Je crois qu'il y avait certains Tchadiens qui voulaient avoir l'indépendance, qui s'intéressaient à ça, mais ce n'était pas vraiment, c'était plutôt la volonté de la France de quitter l'Afrique, plutôt que la volonté des Africains à les voir sur Terre. Et le résultat, c'est qu'il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de gens sur place qui savaient vraiment administrer, et il n'y avait pas, plus important, on n'avait pas de culture politique en place. Et je dis souvent que oui, on peut dire des choses sur la colonisation, les péchés de la colonisation, mais d'un autre point de vue, la décolonisation a été aussi une grave faute parce qu'on a fait trop vite, trop rapidement et sans avoir intégré les gens pour les préparer, pour les instruire, etc. Aussi, il y a le problème que c'était des Sahara, donc une certaine ethnie qui se trouve au sud du Tchad. Qui était chrétianisé et aussi qui était beaucoup plus intégré dans l'administration française, formé. Donc, en général, tous les Tchadiens qui avaient de quoi travailler dans les administrations, dans les bureaux, etc., c'était des Sahara. Et les ethnies du Nord, les ethnies de l'Est, les ethnies de Zaghawa, les Tébou, etc., tous ces gens-là étaient en dehors de l'administration, ils n'avaient pas la formation, ils n'avaient pas les préparations. Et donc, on a quitté le Tchad précipitamment et en donnant les clés à une certaine communauté, une certaine ethnie, à l'exclusion des autres. Et le résultat, c'est qu'on a laissé une situation, on a créé une situation qui était destinée à s'imploser.
Ouais, alors on peut dire que c'est évidemment ce qui va s'ouvrir juste après. Alors il y a un président, un premier président, qui est François Tombal-Baillet, qui va d'ailleurs finir par être assassiné une quinzaine d'années plus tard. Mais d'une manière générale, on peut dire qu'au cours de la décennie 1960, il y a une évolution progressive vers un régime autoritaire et qui de plus en plus est aux mains de ces ethnies du Sud, assez insensible à la situation du Nord qui est plus musulman et qui est en situation difficile, ce qui va amener des rébellions assez logiquement progressives à partir de 1965. Et voilà, c'est ça le mouvement, et c'est aussi ça, on va en reparler probablement dans une minute, mais qui va pousser la France à remettre un pied dans la région à partir de 1968.
Oui. Mais ce qui est fascinant, enfin pour moi, dans cette époque de Tombabay, c'est le fait que la France ne sait pas se comporter vis-à-vis une ancienne colonie. C'est-à-dire qu'on a donné la souveraineté aux Tchadiens, mais parce que c'est nouveau, c'est un rapport tout à fait nouveau, on ne savait pas quoi faire, comment se comporter avec eux. Et c'est intéressant donc en 65, quand la première interaction a commencé contre ce régime postcolonial, les reflets, les réflexes des Français, c'était d'un côté donner de l'assistance militaire, ce qu'ils ont fait, mais de l'autre côté, d'essayer de diriger, de reprendre le contrôle sur l'administration du pays pour le diriger, pour essayer de réimposer la politique coloniale. Donc, on voulait gouverner, mais ne voulait pas gouverner. Donc, il y avait cette ambivalence. Et en fin de compte, après certaines années, aussi le fait que Thom Boba ne voulait rien, il ne voulait pas ça, donc il résistait beaucoup aux tentatives des administrateurs français de s'imposer encore une fois sur la politique. La France a pris la leçon de laisser aller du point de vue de la gestion interne de l'État, du pays, pour se limiter à l'assistance militaire. Et donc je regarde les années 60 comme un moment tournant pour la France, parce que la France avait besoin d'apprendre comment se comporter, comment aider, mais ne pas trop aider, parce qu'il fallait se limiter, il fallait limiter ses propres interventions, son propre le profil. Mais donc il y a après ce moment, il y avait toujours un certain paradoxe. Donc, toutes les interventions françaises en Afrique.
Ouais, tout à fait. Alors, on peut juste préciser, on va évidemment pas rester trop longtemps sur les années 60-70. Je peux signaler à ceux que ça intéresserait que Michel Goya, que les auditeurs connaissent bien, a écrit un ouvrage sur l'intervention, notamment 68-72, qui est disponible en ligne, où il voit d'un point de vue tactique un succès d'un modèle français de
Tout à fait.
contre-insurrection, qui est tout à fait intéressant, même au-delà de la question tchadienne en soi, puisqu'il réfléchit aux tactiques de contre-insurrection à travers l'exemple tchadien. Alors, ensuite, c'est évidemment un mouvement qui continue, mais je l'ai déjà dit rapidement. Donc, le président Thom Boba est assassiné en 1975, et c'est à la fin de la décennie 1970 que les choses se compliquent vraiment, puisque les rebelles qui viennent essentiellement du nord, donc musulmans, prennent possession de N'Djamena, et c'est là que commencent vraiment quelques années de guerre civile qui sont très sanglantes, jusqu'à ce que la situation se stabilise un peu, et malheureusement pour le pire, comme on va le voir.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des communautés, il y a des gens qui étaient à la périphérie de l'État colonial qui maintenant essaient de prendre, de tourner, de renverser l'ordre colonial qui a penché sur les gens du Sud pour mettre à côté les gens du Nord, les gens de l'Est, les musulmans. Et maintenant, il y a les groupements musulmans, les gens du Nord, les gens de l'Est qui prennent pour eux l'État, l'appareil étatique qui est le reste de l'État colonial et de s'imposer en écartant les gens du Sud. Et c'est à ce moment que la politique tchadienne, ça devient l'enjeu de la politique tchadienne. Donc, les gens qui étaient à la périphérie de l'ordre colonial, qui maintenant, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui se combattent entre eux. Et ça met la France dans une position intéressante et très difficile de savoir quand et pourquoi et de quel côté s'imposer. Et pour quel objectif et avec quel résultat. Parce que après les années 60, c'était toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un paradoxe qui s'impose où on veut intervenir sans intervenir. C'est-à-dire, on veut s'intervenir, on veut essayer d'établir, de promouvoir l'ordre tout en restant en dehors de la politique interne parce qu'on ne veut pas gouverner. Mais c'est une position assez paradoxale, à mon avis.
Ouais, alors on va en parler parce que c'est là qu'apparaît une grande figure qui est très importante, très problématique, qui est la figure d'Hissène Habré, qui est l'un des chefs militaires qui sont dans cette guerre civile, et c'est lui qui va prendre le pouvoir in fine. Mais c'est aussi là que c'est intéressant de commencer peut-être à replacer le Tchad dans la région, parce que c'est aussi là qu'arrivent des influences extérieures. D'abord de la part de la Libye de Kadhafi, qui est évidemment le grand voisin jusqu'au nord, qui envahit une partie du pays, qui a même l'espoir à un moment de fusionner les deux pays. Mais, et notamment en réaction, c'est l'un mène à l'autre, c'est pour contrer Kadhafi, bah, y a la CIA et puis il y a la France qui se mettent à soutenir progressivement Hissène Habré, qui est vu comme, en quelque sorte, la barrière, le grand chef qui pourrait faire barrage à ce Kadhafi qui inquiète tant les États-Unis que la France à cette période-là.
Oui, donc il y a deux choses qui sont intéressantes avec la montée d'Habré. D'un côté, ce qu'on voit, on voit l'évolution de la motivation de la France. C'est-à-dire que avant, les interventions françaises étaient motivées par le souci de préserver l'ordre. Et après, cela est devenu le souci de, oui, préserver l'ordre, mais aussi de limiter l'influence libyenne, parce que Kadhafi était vu comme une menace. Mais l'époque d'Habré aussi, ça marque l'entrée des États-Unis dans le tableau. Parce qu'avant, à tant que je sache, les États-Unis ne s'intéressaient pas du tout au Tchad, pour quelle raison ? Il n'y a rien là, c'est pas du tout intéressant. C'est un truc aux Français, si les Français veulent jouer dans le pré-carré gardé comme ça, bon, laissez-le, c'est pas important. Mais ça change sous Reagan, parce que Reagan s'intéresse, c'est Reagan qui voulait vraiment mettre du show dans la contestation avec les Soviétiques, avec le bloc de l'Est, mais aussi Kadhafi, parce que Kadhafi représente aux yeux de Reagan, donc il est un ami des Soviétiques, il est aussi un ami de tous ces mouvements terroristes qui sont gauchistes, radicaux, etc. Et donc, il devient une menace. Et tous les années 80 sont, et pour la France et pour les États-Unis, il y a donc une guerre contre Libye et, une guerre pas procuration, il y a
une guerre par procuration.
Donc une guerre procuration, mais pas procuration pour les Français. Peut-être la France aussi sert les États-Unis. Les États-Unis s'en servent des Français pour faire cette guerre contre Libye. Mais aussi c'est intéressant à voir que donc il y a les États-Unis et la France, mais aussi les rapports entre les deux ne sont pas très bien. Et alors on est content de se trouver alignés, mais aussi les Français sont très soupçonneux, jaloux, ils sont méfiants de l'influence des autres, ils sont soupçonneux des Américains, ils regardent avec un mauvais yeux les rapports entre Habré et les Américains. Et tant que je sache, du point de vue des Américains, les Américains sont fous des Français, ils sont contents, ils ne cherchent pas à augmenter l'influence aux dépens de la France parce qu'ils sont fous de la France. Ils sont fous de l'Afrique en général. Donc, si les Français sont très influencés, c'est pas grave. Tandis que les Français sont très jaloux de l'influence et soupçonneux de l'influence américaine. Alors, donc, il y a une alliance vraiment mal à l'aise avec la France, les États-Unis et Habré. Les Américains, en tant que je sache, sont indifférents à Habré, parce qu'Habré, bien sûr, avait des mauvais côtés. Reagan s'en foutait, mais la France n'aimait pas. Mais c'était une alliance de convenance parce qu'ils étaient tous les trois d'accord sur la guerre contre la Libye. Alors cela devient très important.
Oui, mais alors il faut dire un mot maintenant de Habré quand même, parce que c'est très gênant en fait, et à bien des égards, on lit la relation entre la France et Déby à la lumière de la relation entre la France et Habré auparavant. Juste, je précise incidemment que Hissène Habré est évidemment un très grand criminel de guerre. Il a été condamné pour crime de guerre, crime contre l'humanité, il a été condamné à perpétuité, il est encore en prison à l'heure actuelle. notamment après sa chute, on a découvert d'énormes charniers qui datent de l'époque de la guerre civile. Donc c'est pas anecdotique et il faut peut-être savoir préciser. Alors on a compris les raisons géopolitiques au sens du grand jeu en Afrique face à la Libye avec les États-Unis, mais il faut peut-être préciser comment il est soutenu par les États-Unis et aussi et surtout par la France pendant cette décennie 1980. Parce que c'est une grande ombre qui plane notamment sur François Mitterrand, le fait d'avoir misé et de s'être associé à ce point-là à un grand criminel de guerre comme Hissène Habré. Anecdotiquement, on peut rappeler que Hissène Habré est arrivé au pouvoir avec un personnage dont on parle souvent un peu, qui est le fameux mercenaire français Bob Denard, qui était avec lui pendant la prise du pouvoir. Anecdotiquement, parce que même s'il avait des liens avec les services, c'est pas non plus tout à fait un soutien officiel de la France que ça veut dire nécessairement. Ouais. Mais ensuite... la France, mine de rien, s'investit au Tchad. C'est l'opération Manta à partir de 83, l'opération Épervier à partir de 1986. Donc présence militaire, livraison d'armes, formation aussi des officiers de l'armée d'Hissène Habré. Donc c'est pas que un jeu géopolitique, c'est aussi il y a un vrai investissement très concret qui se passe et qui bénéficie, alors vous nous direz peut-être dans quelle mesure, mais à Hissène Habré, à la stabilité de son pouvoir.
Oui. Donc, la France et les États-Unis soutenaient Habré, mais la France ne voulait pas. C'est-à-dire, ils voulaient parce que c'était nécessaire. C'est une question de pragmatisme. Mais il est clair aussi qu'il n'y avait pas de grande amour entre la France et Habré. Et aussi, on se souvenait toujours du fait qu'Habré était responsable de la mise en otage. Ils ont fait prisonnier un officier français. Et Habré l'a fait exécuter aussi. Et donc, il y avait un mauvais goût qui restait, un mauvais souvenir. Et aussi, on n'aimait pas le fait qu'Habré était assez proche de Reagan, à l'administration de Reagan. Et aussi, on a bien critiqué la France en disant que la France a soutenu les gens qui ont fait des bêtises, ont fait les atrocités, les crimes contre l'humanité. Mais dans ce cas-là, oui, donc on était là, mais on n'était pas aveugle, on savait. Et on n'apprécie pas parce que je crois qu'il y avait un sentiment de fait que ce Habré, il est dangereux. Je n'ai pas l'impression que la France cherchait à faire tomber Habré, mais c'est clair que la France était prêt à le laisser tomber. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Oui, donc et il faut dire, il faut peut-être maintenant passer au prochain grand acteur qui est déjà ce futur président Idriss Déby, parce que il a un parcours qui est aussi très lié à la France. Et il a une ascension sous la présidence d'Hissène Habré, mais qui est très liée avec la présence de l'élément militaire français. Alors on peut commencer par dire que c'est vraiment très littéralement un fils de berger qui doit beaucoup de son ascension justement à cette coopération militaire avec la France dont on parlait, parce qu'il est repéré par des officiers français alors qu'il est en stage à Paris, et que l'appareil militaire français appuie vraiment sa montée en grade dans l'armée tchadienne au cours de la décennie 1980.
Oui. Déby savait très bien aménager ses rapports avec la France. Et c'est évident que c'est toujours un des clés de son succès. Le fait qu'il savait faire ça, tandis qu'Habré ne s'intéressait pas. Et tous les autres, ils ne s'intéressaient pas. On ne voulait pas. On voulait se servir de la France, mais on ne s'intéressait pas vraiment à être proche aux Français. Et Déby, par contre, il avait une meilleure appréciation de ce que ce soutien français pourrait lui offrir. L'un des grands aspects de sa carrière, cette reconnaissance de l'importance des relations avec la France. C'est incontestable que sans le soutien de la France, il n'aurait jamais pu garder le pouvoir aussi longtemps. C'est la réalité.
Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. C'est qu'il ignore mais du tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Thank you. pour sa beauté aux yeux de crocodile. Veulent mon échec, c'est ma misère. Et voilà mon problème.
Ouais, mais alors, donc on peut, pour replacer, pour rester encore une minute dans les années 1980, donc on peut dire il monte, il est appuyé par les officiers français, la coopération militaire française, oui. Il monte en grade. Jusqu'en 1989, où il fait une tentative de coup d'État, une première tentative de coup d'État contre Hissène Habré, qui rate, mais il s'enfuit et il prépare un peu mieux la suivante. Et en 1990, donc, il renverse Hissène Habré et il finit par prendre le pouvoir grâce au soutien bon, de la France, mais aussi et surtout de la Libye, ce qui est intéressant puisque on voit que la Libye se réintroduit, la Libye toujours de Kadhafi évidemment, se réintroduit dans ce jeu tchadien, et là en l'occurrence, pour une fois, se trouve du même côté que la France.
Ouais, ouais. Qui est curieux aussi, au passé, Dabi avait une carrière, il était comme Habré, il était en général assez contre Libye, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a su comment gérer ce rapport entre la France et la Libye. Et il a réussi à avoir des relations qui ne menaçaient pas trop les Français. Et il a su les limites, il a su comment gérer ces deux rapports-là, de trouver un équilibre. Ce qui est devenu plus important, c'était la question de Soudan et de Darfour. Et je crois que le Soudan est devenu beaucoup plus important. Aussi de bénéficier du soutien de certains éléments au Soudan. Et il a vraiment, il était un maître de balancer toutes ces influences, tous ces acteurs. Il a fait très, très bien, tout en sachant comment garder des bons rapports avec les Français, pour que les Français ne fassent pas trop de soucis. Mais j'imagine, ça c'est le côté que je ne connais pas très bien, mais j'imagine qu'il y a aussi des évolutions domestiques dans la France. C'est-à-dire que avec la fin de la guerre froide, et la France et les États-Unis sont devenus moins sensibles aux Libyens, moins paranoïa, moins méfieux de Libye, parce que le lien Libye d'Union soviétique ne voulait plus rien dire. Alors, Kadhafi est devenu moins... Il n'était pas la menace qu'il était avant. Il était un autre genre de menace.
Oui, et donc tout ça permet à cette prise du pouvoir de Déby, avec donc soutenue par tout un tas de puissances un peu différentes. Oui. Alors, il faut peut-être dire aussi un mot de comment se met en place ce régime Déby, avec ses appuis extérieurs évidemment aussi. On peut rappeler qu'au tout début, il y avait un espoir assez net de pluralisme, de démocratie, et que en même temps, dès le début-milieu des années 90, il paraît assez rapidement clair que ça ne va pas forcément durer très longtemps. Donc voilà, comment est-ce que ça se passe? Et puis aussi, puisque c'est toujours un peu... Si on fait le procès de la France dans ces affaires-là, c'est toujours autour du thème de soutenir des dictateurs, soutenir des dictatures et de ne pas soutenir la démocratie. Disons, au moment de ce tournant progressif de plus en plus autoritaire de Déby au cours des années 90, quel est le rôle de la France? Par exemple, on a beaucoup dit que la France l'aurait aidé à truquer les élections présidentielles en 1996. Est-ce qu'on sait ces choses-là? Et d'une manière générale, est-ce qu'on sait... Disons, quelle est la relation de Déby au fur et à mesure qui s'installe dans ce régime autoritaire sur le Tchad?
Oui, donc dans toute l'Afrique, dans les années 90, on voit qu'il y avait d'abord un mouvement vers la démocratie, le pluralisme, mais après, souvent en général, les pouvoirs africains ont trouvé des façons à contrefaire la démocratie pour contourner les règles et les élections, etc., et pour réimposer le dictateur, quoi. Mais la rôle de la France là-dedans, c'est difficile à discerner, et l'un des grands problèmes quand il s'agit de la France et la France-Afrique et tout ça, c'est que tout est possible. C'est-à-dire que les histoires de conspiration qu'on entend sont plausibles, toujours plausibles. Donc, vrai ou non, c'est plausible. Et ça, c'est un problème parce que c'est ça qui rend, il y a souvent un élément de vérité là-dedans. Alors, est-ce possible? Est-ce que la France a vraiment aidé Dabi à truquer les élections? Je ne sais pas, mais je sais que c'est possible. Il y a les éléments qui indiquent que oui, effectivement, mais en main, on n'a pas. C'est clair que la France n'a pas vraiment mis de la pression sur Dabi de ne pas truquer les élections. S'il truquait les élections, s'il faisait quoi qu'il faisait, la France était contente parce que c'était, point de vue de Paris, c'était dans les intérêts de la France de laisser faire. Et d'un côté, parce que la France post-coloniale, sincèrement, ne voulait pas s'insérer dans la politique. Parce que l'ingérence dans la politique domestique, c'est un truc colonial, elle ne voulait pas faire ça. Je crois que c'est sincère. Mais bien sûr, il y a toujours ce paradoxe. En étant là, on a une influence sur la politique. Donc, on ne veut pas avoir l'influence sur la politique, mais on a l'influence politique. Et donc, dans cette situation paradoxale, on est capable de faire des choses, on est capable de ne pas faire des choses, et c'est difficile. Et je crois que souvent, c'est le cas que la France, en se disant qu'on ne fait pas l'ingérence, on s'aveugle, on ferme les yeux, on se convainc qu'on est neutre, on se convainc que quoi qu'il arrive, c'est pas notre faute, c'est pas notre responsabilité. En ignorant, en faisant semblant du fait qu'il y a effectivement un lien entre la présence de la France et ce qui se passe. Donc, il y a une culpabilité, il y a une responsabilité, même si à l'époque, la France s'est convaincue qu'elle n'avait pas de responsabilité, parce qu'elle cherchait sincèrement à laisser faire, parce qu'on ne croyait pas que c'était la rôle de la France de se mêler dans les affaires domestiques. Et donc, dans ce sens-là, on a laissé faire. Et de l'autre côté, on peut voir ça comme un soutien tacite, au moins tacite. Si ce n'est pas actif, c'était au moins un soutien tacite.
Ouais, alors, et ce soutien tacite, il va se poursuivre, puisque ensuite il y a la décennie 2000. Alors, dans la décennie 2000, il y a beaucoup de choses. Il y a le conflit avec le Soudan voisin, dont vous avez déjà commencé à parler, mais qui est évidemment très important, parce qu'il y a, on en reparlera, mais c'est le problème du Tchad, c'est qu'il y a des conflits un peu partout autour, tout le temps. Mais il y a la Libye, il y a avec le Soudan, notamment autour du Darfour. Et en gros, le problème, c'est que ben, le Tchad et le Soudan, chacun soutient les groupes rebelles de l'autre pays, et donc c'est quelque chose qui va durer la décennie. Mais simplement pour faire le tour un peu rapidement de cette décennie 2000, il y a aussi l'argent du pétrole qui arrive à partir de 2003, et ça joue beaucoup. Et de manière pas totalement décorrélée, il y a aussi des coups d'État, en tout cas des tentatives de coups d'État, notamment par des proches de Déby, par des membres de sa famille éloignée, disons, des tentatives d'assassinat, etc. Donc c'est une décennie un peu chamboulée, à la fois avec beaucoup d'argent du pétrole qui rentre et qui va bénéficier au clan Déby, en même temps avec un conflit ouvert et plein de conflits internes. Donc, en quelque sorte, comment est-ce que Déby va survivre à cette décennie 2000, puisque c'est aussi comme ça qu'on l'a présenté au moment de sa mort récente, c'est celui qui avait survécu à tout, quoi. C'est celui qui avait survécu aux années 90, enfin à Issenabré, puis aux années 90, puis aux années 2000. Voilà, comment est-ce qu'il réussit à chaque fois naviguer dans ce paysage politique très compliqué, du Tchad?
Parce qu'il a toujours... Il a toujours trouvé une excuse. Il a toujours trouvé un moyen pour rappeler aux Français et aux Américains de son importance. Et d'abord, j'ai dit qu'avant, aux années 60, la France voulait soutenir le gouvernement tchadien parce qu'on avait peur de l'instabilité. Après ça, on avait peur de l'instabilité et les biens. Mais à un certain moment, il fallait aussi ajouter la peur du Soudan. Soudan, parce que le gouvernement soudanais, bon, il y avait pas mal de changements à cette époque, mais les Français, les Américains en général voyaient le Soudan, le gouvernement soudanais, un peu comme une menace. Ce n'étaient pas des amis. Et je sais que de plus en plus, on voyait le gouvernement soudanais comme à côté des les tendances soviétique, mais après ça, islamiste. Donc, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas bien. Et pour les Français, je dis ça en tant que... Comme vous savez, j'ai pas mal de rapports avec le gouvernement français et les officiers français. Et je suis fasciné par les Français, les officiers français, parce que je trouve que souvent, ils ont des points de vue... bon, pour moi, au premier abord, c'est bizarre, mais en écoutant, je commence à comprendre. Mais c'est différent. Si c'est fascinant pour moi, parce que la France que je connais quand j'ai fait des études à Paris il y a 20 ans, 25 ans, c'était la France, la France universitaire, bien pensante. Très différente des officiers. Et je me souviens très bien d'une conversation que j'ai eue avec un officier français. Enfin, peut-être qu'il est même officier dans le DGSE, mais je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous êtes en... C'était l'époque toujours des Perviers. Pourquoi vous êtes toujours là en demi-nain? Je vois qu'il y a des troupes françaises, des mirages qui sont là. Vous regardez les conflits, vous mangez des pop-corn en regardant la politique et les guerres internes. Et parfois, vous agissez, parfois, vous ne agissez pas. Mais pourquoi est-ce que vous êtes là? Il m'a dit que oui, mais parce que la Tchad, la frontière entre le Tchad et le Soudan, c'est un peu c'est comme la frontière entre deux plaques continentales, deux plaques tectoniques. Et il a décrit cette frontière un peu comme ça m'a fait penser de la vieille sur le Rhin, je ne sais pas combien en français, mais le Wacht am Rhin. Donc, il y avait les anciens soldats qui étaient là sur le Rhin, parce qu'au-delà de la frontière de l'Empire romain, il y avait les barbares allemands, tout en ligne.
On appelait ça le limès sur le Rhin, la frontière de l'Empire
romain. Le limès.
Oui, le limès, c'était la limite de l'Empire romain.
Voilà, donc ça, c'est la limite. Et l'autre côté de la limite, il y a un monde musulman, arabe, etc., qui était un autre monde. Et c'était la barbarie, plutôt. Bien que, bon, la majorité des gens de l'Afrique occidentale sont musulmans, mais c'était pas dans la tête, dans cette mentalité, c'est un islamisme différent, c'est une culture différente, c'est l'autre. Donc, c'est la frontière entre les deux. Et donc, il y a la Libye, il y a ça, mais aussi il y a le Soudan. Et dans les années 90, je crois que cette opposition Tchad-Soudan est devenue de plus en plus importante aux yeux des Français, mais aussi pour les Américains. Et je me souviens, c'était un livre, je crois que j'ai écrit ça sur Twitter, que c'était un livre sur le Tchad, mais je crois qu'en effet, c'était un livre sur le Darfour, qui disait qu'il n'y a personne qui s'intéresse à Darfour en dehors des officiers français et les analystes CIA. Et j'ai trouvé ça très drôle parce qu'à l'époque, j'étais analyste au CIA, j'étais responsable, entre autres, je surveillais le Tchad et le Darfour, etc. Et donc, voilà. Et donc, c'est sûr que je suis l'un des seuls Américains qui lisait ce livre, qui s'intéressait à ça. Mais c'est vrai qu'il y a, donc, parce que ça entre dans tous les rapports bizarres entre le Soudan, tous les autres pays musulmans, arabes, c'est très, très compliqué. Alors, Debbie, à cause du fait qu'il était en général opposé au gouvernement soudanais, qui cette opposition, ce conflit, lui a aidé à garder le soutien français et aussi à attirer le soutien américain d'une façon analogue de la manière dans laquelle après et les gens qui sont venus avant après vis-à-vis de Libye. Et cela, c'est très important. Donc, cette guerre à proxy net entre les deux, entre le Soudan et le Tchad, cela est devenu très, très important. Et dans les années 2000, avec le conflit de Darfour, et on voyait que le Tchad soutenait les rebelles darfouriens, donc, sur ton point de vue, c'était le bon côté. Et aussi, grâce au soutien des rapports entre le gouvernement soudanais et les mouvements terroristes. Donc, il y a cette association. Et donc, cela marque l'évolution du conflit et de la situation vers la guerre contre le terrorisme. Donc, avant, c'était, on n'avait pas l'instabilité, deuxièmement, Libye, troisièmement, Soudan, dans un certain sens, mais cette opposition Tchad-Soudan tournait très facilement à la guerre contre le terrorisme et Dabis se trouvait très bien placé pour se réinventer en tant que de faire le rebranding, de se convertir en tant que de fort allié contre le terrorisme.
Ouais, en quelque sorte, le Tchad, à chaque fois, et à chaque fois, les gouvernants du Tchad gagnent le soutien étranger et donc une certaine stabilité en se présentant comme un rempart contre un danger plus grand, que
Oui,
soit la
c'est ça.
Libye, le Soudan, le terrorisme, l'instabilité d'une manière plus générale. À chaque fois, c'est moi ou le chaos, ou c'est moi ou pire que moi. Et donc, à chaque fois, ça permet d'attirer soutien français et américain.
Oui, tout à fait, tout à fait. Aussi, il faut ajouter que c'est ce moment maintenant, les Américains deviennent même de plus en plus intéressants. Ils restent très intéressants à cause de la guerre contre le terrorisme. Il y a aussi, à mon avis, un heureux développement, c'est le fait que la France est beaucoup moins soutenue des Américains dans la région. Donc, Déby n'a pas besoin d'avoir, il n'a pas besoin d'avoir peur de ça. Il peut être très bon ami avec les Américains sans poser des problèmes pour les Français. Parce que maintenant, les Français sont heureux s'ils sont des bons amis avec les Américains, ça va. Qui n'était pas le cas avant.
أنا ماشي في الواحد وجابوا لي كمرانجا وجابوا لي جامبو وجابوا لي كوال وأسيدا تعالوا شوفوا هلاوة بلدنا دنيا
Alors maintenant, il faut peut-être dire un mot à la fois, enfin, c'est-à-dire de manière peut-être plus précise dans ces dernières années, à la fois de l'importance stratégique et même tactique du Tchad, et notamment, puisqu'on va se concentrer aussi beaucoup sur la France, des bases qui sont au Tchad. On a souvent employé l'expression, vous avez parlé tout à l'heure des mirages qui sont là depuis bientôt 30 ans. Plus de 30 ans maintenant à N'Djamena, mais on a souvent employé l'expression de porte-avions des sables pour parler du Tchad et notamment de la base de N'Djamena, avec donc cette idée que, bah, en fait, quand on a une grande base aérienne là, on peut rayonner vraiment dans beaucoup d'endroits d'Afrique assez
C'est vrai.
facilement, assez rapidement, et donc on mesure l'intérêt d'avoir un point de chute là, en quelque sorte. Et on peut directement prolonger ça en disant que, bah, en fait, Déby, alors, au-delà même du fait de laisser les avions français notamment se opérer à partir de là, Idriss Déby, dans la décennie 2010, s'est révélé comme un allié assez précieux, voire même très précieux, notamment on peut dire, on parlera peut-être ensuite d'autres choses, mais en 2013, le grand coup de théâtre, en tout cas le grand geste d'Idriss Déby, qui n'a pas été oublié, c'est qu'au moment du déclenchement de Serval, c'est-à-dire au moment où les rebelles Touareg avancent vers Bamako, ont pris dans Mouktou, etc., bah, et où les forces, notamment françaises, se déploient rapidement. Mais bon, c'est quand même loin, c'est quand même compliqué. Bah, Idriss Déby va compléter un peu, va fournir des soldats, va fournir des bons soldats qui vont jouer un vrai rôle dans le fait de repousser les rebelles Touareg, dans le fait d'assurer l'État malien. Enfin, je veux dire, au début de la décennie 2010, et notamment à partir de 2013, Idriss Déby, malgré tous ses problèmes intérieurs dont personne n'est dupe, bah, ça devient un peu l'allié modèle de la France, en tout cas dans la région.
Mais donc, Cela date en que la guerre contre le terrorisme, ça date de 2001, 2002, 2003, et c'est à ce moment que les Américains ont déclenché toute la Trans-Sahel Counter-Terrorism Initiative. Donc, il y a plusieurs programmes américains pour aider les pays du Sahel à améliorer leur force, leur capacité de faire la guerre contre le terrorisme. Et le Tchad faisait partie de cela. Il y avait des unités tchadiennes qui ont reçu pas mal d'entraînement. Des Américaines. À l'époque, les Français aussi s'intéressaient toujours à ça. Pour Debbie, c'était très utile et aussi parce que tout cet entraînement contre-terroriste était aussi c'était utile pour lui aussi pour faire la guerre contre les rebelles. Et c'est important. Les États-Unis, d'un certain sens, ont aidé à Debbie à se faire des unités de prétoriens, on dit, avec lesquels ils pouvaient se protéger. Et il y avait, je crois qu'il y avait un moment...
Oui, parce que ça, on ne l'a peut-être pas assez rappelé, mais je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais la décennie 2000, c'est vraiment... Bon, alors, il y a eu les tentatives d'assassinat, mais il y a eu des vrais groupes qui sont partis à l'étranger et qui ont essayé de lutter contre Debbie au Tchad. Notamment, je ne résiste pas à citer le nom d'un mouvement qui est fondé par des cousins d'Idriss Déby. Oui, mais alors, il y en a un qui me plaît particulièrement, ceux qui fuient au Soudan, qui fonde donc le socle pour le changement, l'unité nationale et la démocratie, ce qui fait le merveilleux acronyme SCUD, mais ce qui fait partie donc des mouvements qui luttent contre Déby soutenu par le Soudan, mais contre lesquels Déby doit aussi lutter, et c'est là qu'on voit bien que profiter des investissements et des aides américaines dans la lutte contre le terrorisme, ça peut permettre de faire d'une pierre deux coups du point de vue de Déby à cette époque-là.
Ouais, ouais. Mais ce qui était fascinant, quand j'étais analyste dans le gouvernement américain, je m'intéressais à savoir si c'était le cas que la politique américaine était de soutenir Déby. Est-ce qu'on le soutenait ou non? On voulait qu'il fasse la guerre contre les terroristes. On appréciait son soutien pour les rebelles Darfur dans le sens que on sympathisait, on était hostile au gouvernement soudanais, bien que le gouvernement américain n'avait pas d'illusions sur les rebelles darfuriens qui n'étaient pas vraiment des Boy Scouts, les éclaireurs eux-mêmes. Mais donc, on donnait la formation, on donnait les choses, on formait et équipait certaines unités tchadiennes. Et c'était clair que ces unités tchadiennes qui sont maintenant fait partie de la guerre présidentielle, mais aussi il y a des unités d'élite dans les forces armées tchadiennes, c'est vraiment une armée de terre à deux vitesses. Parce qu'il y a un côté qui est vraiment très, 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 très bon, très bien formé. Et c'est eux qui sont le noyau de ça. Ce sont des gens qui sont, entre autres, formés par les Américains. Mais à l'époque, je me souviens d'une réunion que j'avais, c'était au sein du gouvernement américain avec les gens dans le Conseil de sécurité nationale. J'ai posé la question, est-ce que c'est notre politique de soutenir Déby? On me regardait sans répondre. Je n'ai jamais eu une réponse à cette question. C'est juste un silence. Donc, j'ai posé la question, mais la réponse était silence. Alors, je ne sais pas. Donc, soit c'était la politique, mais elle ne voulait pas me le dire, parce que même en tant qu'analyste CIA, je n'avais pas besoin de le savoir ou non, je ne sais pas. Ou peut-être le mec n'a jamais pensé à ça. Et peut-être c'est le cas où il n'a jamais pensé à ça. C'est-à-dire qu'il n'a vraiment réfléchi sur le rapport entre ce soutien contre le terrorisme et le soutien politique. Parce que ça revient aussi à ce paradoxe dont j'ai parlé avant, où on est là en soutien à un certain niveau, tout en se disant qu'on n'est pas là, tout en se disant qu'on n'a pas d'influence sur la politique. Donc, je crois que le gouvernement américain s'est convaincu que notre soutien à Déby pour faire face aux terroristes n'avait rien à voir avec les questions politiques et rien à voir avec les luttes qu'il avait avec les rebelles. Et c'est possible qu'avec la France, c'est la même chose, parce que la France, les Français pouvaient dire que oui, nous ne faisons rien, nous laissons faire quand il s'agit des questions domestiques, sans se rendre compte du fait que le soutien qu'on donne, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mais c'est remarquable qu'il a fait donc, avec cette armée de vitesse et aussi avec une certaine qualité, avec les forces armées italiennes, mais il a vraiment, surtout avec ce bar, il a vraiment montré au monde les valeurs. Donc ça vaut la peine d'avoir l'Italien à son côté. C'est utile d'être ami avec l'Italien. Et ce que les Italiens ont fait pendant la lutte de Serval, dans la guerre de Serval, l'opération de Serval, c'était vraiment très important. Les militaires français sont très clairs là-dessus. Je crois qu'ils n'exagèrent rien. C'est la réalité que le rôle des combattants italiens est très, très important, surtout dans cette fameuse bataille d'Amatetai, où il y avait les montagnes, c'était les redoutes dans l'Idra, où les Français ont réussi à pousser les islamistes dans un massif très, très difficile à pénétrer. Et c'est là que les islamistes ont décidé de s'arrêter et de résister. Et on a fait une opération où les Français, il y a un valet, et les Français sont entrés dans un bout de la vallée, et les Italiens dans l'autre. C'était un mouvement coordonné entre les deux. Les Italiens avaient le soutien, appui feu, appui aérien des Français. Mais ce que les fantassins italiens ont fait était extraordinaire. Et c'était incroyablement utile pour les Français. Donc c'était une contribution, une vraie contribution à cette guerre. Et cela seul a gagné pour Dabi beaucoup de crédit auprès des Français. Et après, les autres contributions que les Tchadiens ont fait en Tchad et dans la lutte contre Boko Haram, en Nigeria, au Cameroun, dans le bassin du lac Tchad, c'est super important.
Oui, alors ça, on peut dire, c'est à partir notamment de 2017, c'est voilà, pendant que Boko Haram avance, fait des prisonniers, fait des otages, et que c'est en même temps très médiatique, et que personne ne sait trop comment les arrêter, puisque les Français sont déjà pris à Barkhane, il n'y a pas vraiment d'acteur qui est là, qui est capable d'arrêter cette rébellion, ce mouvement de Boko Haram, bah c'est Déby, enfin c'est les forces tchadiennes qui vont permettre d'arrêter en tout cas le mouvement, la progression de Boko Haram. C'est vraiment, encore une fois, Déby qui s'illustre du point de vue militaire, oui. Alors que personne ne sait vraiment trop par quel bout le prendre et qu'il n'y a pas d'autre acteur vraiment qui est capable de combattre cet ennemi sur lequel tout le monde s'entend en plus. Boko Haram, enfin, je veux dire, c'est pas un problème géopolitique. Tout le monde est d'accord que c'est terrible ce que fait Boko Haram, et c'est Déby qui les arrête, en tout cas qui les ralentit.
Oui. Et ce qu'on a vu dans les opérations contre Boko Haram, c'est que les forces armées nigériennes,
ouais, c'est moi non plus parfois c'est compliqué, mais c'est dans
enfin de Nigeria, donc les anglophones, ils ont des forces armées beaucoup mieux équipées avec des ressources beaucoup plus vastes que les armées tchadiennes, mais cette armée de Nigeria a échoué, ne pouvait pas faire grand chose. Et assez inapte quand il s'agit de lutter contre le Boko Haram. Alors les Tchadiens sont arrivés au Nigeria, ils étaient là, et avec moins de ressources, ils ont mieux fait. Ils ont réussi à faire ce que les armées nigériennes ne pouvaient pas faire. Et c'était un moment de gloire, donc c'était un peu honteux pour le Nigeria, mais pour les forces armées italiennes, pour Déby, c'était un bon moment. Encore une fois, il démontre le valeur des troupes italiennes et leur utilité et l'utilité d'être ami avec Déby, parce qu'il pouvait faire ça.
Ouais, mais alors c'est intéressant parce que ça nous amène aussi en contradiction, disons, à la crise qui est actuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous amène à cette question? C'est la mort d'Idriss Déby. D'où vient la mort d'Idriss Déby? D'une rébellion qui gagne du terrain et où il a été tué au sein d'un combat, enfin, même si ce n'est pas forcément très clair encore les conditions de sa mort. Mais donc, il faut parler de cette rébellion donc du FACT, qui est donc le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Mais pourquoi? Parce que ça oblige aussi à reposer la question de la Libye, qu'on avait un peu oublié depuis Hissène Habré, etc. Mais évidemment que le Tchad subit largement les conséquences de la crise en Libye depuis 2011, mais encore plus depuis 2013-2014. C'est l'époque où ça se calme un peu au Soudan. Il y a des tentatives de médiation, notamment de la part d'Idriss Déby avec le Soudan. Mais au contraire, la crise en Libye empire depuis 2013-2014, depuis l'avancée du maréchal Haftar. On ne va pas revenir dessus, on en a déjà longuement parlé il y a quelques mois avec Jalal al-Harchaoui. Et donc on peut dire qu'à partir de 2015, beaucoup de Tchadiens vont s'engager dans ce conflit, vont s'engager comme mercenaires en Libye, pour un camp ou pour l'autre, ou pour les deux d'ailleurs, c'est vraiment des mercenaires en l'occurrence, et c'est ces mercenaires qui vont former le FACT dont la rébellion va donner lieu à la mort de Déby. Donc c'est intéressant parce que d'un côté, Déby semble l'armée, l'allié modèle dans la région, et pourtant il se trouve que là, depuis quelques mois, il est tenu en échec, et même jusqu'à la mort du président Déby lui-même, par une rébellion qui vient de Libye depuis quelques mois.
Du point de vue strictement militaire, ce n'est pas très étonnant, vu plusieurs choses. Il y a la taille, la superficie du Tchad, qui est énorme, énorme, énorme. Il y a aussi l'infime capacité tchadienne de se déplacer. Ils ont des capacités tactiques incroyables, mais pour se déplacer sur cette vaste territoire, il faut des moyens de transport, logistique, etc., que les Tchadiens n'ont pas vraiment. Il y a aussi le fait que les forces armées tchadiennes sont un peu dispersées. Donc, il y en a 2000 en ce moment au Mali. Et il y en a beaucoup qui sont au Mali. Ils ne sont pas concentrés. Et donc, c'est une question de dispersion vis-à-vis de concentration. Mais aussi de tout ce que j'ai appris sur la guerre de guerre sahélienne. Donc, il y a un super bon manuel de doctrine, une étude sur la guerre sahélienne que l'armée de terre française a fait il y a 10 ans, 15 ans, et qui parlait du fait qu'il y a ce style de guerre offensive de razzia. Donc, avant, c'était avec les dromadaires, maintenant, ça se fait avec les Toyota ou les trucks blindés. Et c'est très vite, on roule vite, et à cause du fait qu'on roule vite, et on a une capacité offensive très grande.
Oui, c'est que dans un désert, c'est plus facile d'attaquer, que de défendre un désert et un territoire très étendu. Donc, oui. donc c'est ce genre de force un peu mobile peut attaquer, et c'est beaucoup plus difficile pour l'armée tchadienne de garder l'intégrité de son territoire, quoi.
Oui, tout à fait. Parce qu'il faut du temps et il faut des moyens pour réagir, concentrer les forces, pour contrer cette tentative, cette razzia, cette colombe volante qui vient très, très vite. Alors, c'est difficile à faire. Avec les capacités de reconnaissance et les capacités aériennes, ça devient un peu plus facile. Donc, c'est une question de... Je me demande, je ne sais pas... Est-ce que les Français, j'imagine que la France savait exactement où se trouvent ces rebelles. Mais même ceci dit, les ressources de la France sont assez limitées, vu la superficie de tout le Sahel. Mais j'imagine que la France savait, mais on ne sait jamais jusqu'à quel niveau les Français partagent les informations avec les Tchadiens. Et aussi, on ne sait pas si les Tchadiens avaient la capacité de réagir. Donc, même s'ils savaient exactement se trouver les colombes, les attaquants, est-ce qu'ils avaient les capacités, vu leur capacité logistique de transport, etc., de réagir d'une façon suffisante? Alors, pour cela, ça n'en admettons pas tellement, parce que je sais que c'est simplement difficile à réagir dans ce sens. Et on a même dit dans ce manuel qui a fait l'armée de terre française que c'est pour ça qu'il vaut mieux faire de la guerre offensive que le faire défensivement. Il ne faut pas avoir des positions statiques, etc. C'est simplement dans la nature de ça. Et les mouvements de troupes sont si rapides comme ça qu'encore une fois, il faut du temps, il faut des moyens de transport pour réagir.
Ouais, mais alors du coup, ça pose la question aussi de l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense qui va pouvoir se passer maintenant après la mort de Déby. Alors on a vu, c'est-à-dire, on voit bien l'importance de l'armée dans l'appareil militaire, enfin dans l'appareil dans le pays tchadien, au fait que c'est l'armée qui a tout de suite pris le pouvoir, le contrôle de la transition, avec la bénédiction apparemment de la France d'ailleurs. Mais bon, la question c'est qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le FACT c'est vraiment une menace ? Est-ce que ça n'est pas vraiment une menace ? Mais après tout, toutes les frontières sont plus ou moins instables, on l'a toujours dit, on l'a dit depuis tout à l'heure, il y a la Libye au nord, mais il y a aussi le Soudan à l'est, où le conflit peut toujours se réchauffer si les circonstances y prêtent. Il y a toujours Boko Haram à l'ouest aussi, qui n'est pas du tout terminé. Donc on pourrait aussi imaginer une coalescence de facteurs, tout ce qui vient au même moment, une situation extrêmement... Même si le FACT n'est pas forcément capable de faire tomber l'armée tchadienne, on pourrait imaginer
Mais il y a un autre FACT, il y aura un nouveau FACT, parce qu'il y en a toujours. Donc si ce n'est pas le FACT, il y en a un autre. Et aussi, donc c'est une question, c'est ici que si Déby n'a pas réussi à se défendre des rebelles, comment est-ce que ça peut se faire que son fils qui est moins expérimenté, comment ça se fait qu'il pourrait se défendre? Parce qu'on sait qu'il y aura un autre. Si la FACT est finie, il y aura un nouvel FACT, c'est clair. Et après ça, un nouvel et un nouvel et un nouvel. Et ça peut toujours se faire qu'il y a d'autres problèmes. On dit que même les islamistes sont vraiment... Ils sont votés contre la famille de Déby pour plusieurs raisons. Et donc, il y a les islamistes, il y a toujours les questions de Darfur, il y a toujours les questions des problèmes au Soudan, il y a toujours des questions dans le Centrafrique qui sont toujours très liées à la politique entre Soudan et Tchad. Parce que le cœur aussi, le Centrafrique est aussi un théâtre dans cette lutte entre les deux côtés de la frontière entre l'Empire romain et l'Empire des barbares, pour parler d'une façon un peu...
Oui, mais alors ça, on peut dire, c'est vrai qu'on n'a même pas eu le temps de parler de la Centrafrique, mais la Centrafrique est aussi le voisin. Il faut vraiment prendre une carte pour bien voir à quel point dans cette région il y a des conflits partout et que donc ça peut évidemment s'enchaîner assez rapidement si il y a un acteur aussi central que le Tchad qui est déstabilisé. Oui.
Alors, la grande question, c'est comment sortir de cette cycle de conflits, cycle de rébellion, ce cycle qui a l'air d'être permanent. Parce que ça a l'air, on a l'impression que ça tourne toujours d'une façon permanente. Si ce n'est pas le Libye, c'est le Soudan. Si ce n'est pas le Soudan, c'est le je ne sais pas qui, mais c'est toujours les mêmes problèmes. Et comment sortir de cela? C'est pour ça que les gens qui sont les critiques de la France vis-à-vis de la France, ils disent qu'il faut que la France arrête enfin de soutenir les dictateurs et de les obliger à ouvrir la dimension politique, à démocratiser, mais pour le vrai, d'essayer de donner enfin au Tchad un gouvernement qui est légitime, qui s'intéresse aux intérêts de la plupart de la population et non pas à une fraction de la population, qui est toujours le cas. Parce que de Tombabay jusqu'à Déby, on n'avait pas de gouvernement tchadien qui vraiment s'intéressait aux intérêts à toute la population.
Mais
on dit qu'il faut que la France...
On peut les citer parce que c'est important, c'est des critiques qu'on voit. En France, la personne, la chercheuse qui est probablement la plus visible et la plus proéminente là-dessus, c'est Marielle Debeauce qui a publié un ouvrage important sur le métier des armes au Tchad, où c'est tout à fait ce genre de critique. Il y a en Royaume-Uni Nathaniel Powell qui a publié l'an dernier un livre sur le bilan des interventions militaires françaises au Tchad. Donc voilà, c'est cette même critique qui est, qu'on a entendu Marielle Debeauce aussi développer dans les médias récemment, c'est cette idée que si on mise sur un homme fort à chaque fois pour garder la paix, une stabilité apparente, en fait on augmente les causes des crises en dessous, et on sort en fait jamais de cette structure problématique. On a l'impression de sauvegarder la paix à court terme, mais en fait on augmente les facteurs de guerre et d'instabilité à long terme. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette explication qui en même temps est peut-être vraie, peut-être pas, on peut en discuter, mais dans tous les cas ne donne pas non plus de problèmes très concrets, enfin de solutions très concrètes empiriquement à quelques semaines et quelques mois, ce qui est généralement l'échéance à laquelle par exemple l'armée française où le gouvernement français se pose ces questions-là, quoi.
Ouais. Bon, d'un côté, les critiques de Debo et de Nathaniel Powell, ils sont tous les deux les super bons chercheurs. Et à mon avis, il faut absolument les lire. Mais bon, d'un côté, leurs critiques, ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Mais la question pour ceux qui s'intéressent à la politique, la question alors pour l'avenir. Donc, c'est vrai, au passé, on a fait des choses qui ont ajouté un problème. Et donc, le lecteur de l'histoire, des interventions françaises au Tchad, c'est correct, le lecteur. Ils ont raison. Mais le problème, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et c'est là, il n'y a pas de bonne réponse. Parce que l'alternative, c'est de dire au Dabi, à Mahmoud Dabi, d'essayer de mettre la pression sur les dirigeants tchadiens actuels, pour qu'ils suivent, pour qu'ils fassent la démocratie, pour qu'ils fassent le dialogue avec les opposants politiques, etc. Et c'est pas du tout clair comment faire ça. C'est pas du tout clair comment ils vont réussir, même s'ils étaient sincères. Et c'est pas du tout clair aussi comment est-ce qu'une vraie transition démocratique pourrait amener à quelque chose qui serait mieux, plus satisfaisant, et qui n'amènerait pas au chaos. Parce que quand Déby dit « c'est moi le chaos », il a raison. Mais Déby aussi, moi, donc c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dans une situation qui n'a pas de sortie. Et une solution, simplement, c'est de se laver dans les mains de toute la région, de partir. Mais même ceci dit, donc, je ne sais pas si les résultats seraient grave ou non, parce que peut-être ça va aller pour le mieux, ou peut-être ça va aller pour le pire, mais j'ai l'impression que ça va aller mal. Mais aussi, je sais que sans la France, les autres vont intervenir aussi. C'est-à-dire que c'est pas le cas où le Tchad serait tout seul et dans cette isolation merveilleuse, il pourrait apprendre à s'arranger entre eux et vivre entre eux et de se gouverner tranquillement, parce qu'il y aurait toujours des gens extérieurs de l'extérieur qui vont mêler dans les affaires. Et ce n'est pas une excuse pour sortir, parce que je sais qu'il y a des bonnes raisons pour vouloir que la France s'en aille, mais ceci dit, c'est difficile à voir comment cet avenir va être un meilleur avenir. Ça va être un avenir sans les Français, alors les Français pourraient se réjouir de n'être plus responsable, de n'être plus en être coupable de ce qui se passe. Alors, donc, peut-être cela, tout ça, c'est une bonne raison de sortir, de n'avoir plus de responsabilité pour ce désastre. Mais il n'y a pas de bonne réponse. C'est ça ce que je veux dire. Et donc, je reconnais les critiques, le criticisme de Debos et de Pao. C'est juste. Mais c'est vraiment difficile à savoir comment agir avec cette reconnaissance.
Oui, mais alors
ils
simplement...
Ils ont raison, mais quoi faire? Comment faire?
Oui, simplement, on peut rajouter à ça, à ce tableau, qu'une critique qui n'est pas la leur, mais qu'on entend souvent dans les médias un peu plus larges, c'est dire que la France est au Tchad pour préserver ses intérêts, à Barkhane pour préserver ses intérêts aussi. On peut dire que... Enfin, on a commencé à le dire un peu, mais enfin, le Tchad, ce n'est pas un intérêt notamment économique énorme. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Ce sont des opérations et des investissements militaires qui sont gigantesques. Ça coûte très très cher à la France d'être là, à l'armée française. Et je pense qu'on peut dire que l'armée française aimerait investir ses moyens plutôt dans autre chose que les dépenser en Afrique. Donc c'est plus... Ce que je veux dire, c'est que, parce que c'est une critique qu'on entend parfois, je pense qu'on peut dire avec une relative certitude que ce n'est pas un investissement calculé, ce n'est pas une volonté volonté de prise de position, etc. Éventuellement préserver un peu des intérêts stratégiques anciens. Mais surtout, c'est vraiment une problématique de désengagement tout à fait typique de ben, on est au Tchad et on ne sait pas comment partir. De la même manière qu'on est en train de le retrouver plus à l'ouest depuis quelques années, de on est dans Barkhane et on ne sait toujours pas vraiment comment en partir parce que c'est facile d'aller, de lancer des opérations. Ce n'est pas facile de les arrêter dans des pays qui sont déstabilisés.
Oui, oui, c'est vrai. Mais dans, aussi, pour, peut-être pour ajouter à ça, il y a, on fait souvent nos comparaisons entre le Sahel et l'Afghanistan, parce qu'on dit maintenant, oh, regarde, les Américains, ils sont en train de sortir d'Afghanistan, donc ils ont la capacité de sortir de l'Afghanistan, peut-être nous aussi, les Français, nous pouvons sortir du Sahel, pourquoi
ça,
pas.
Ça fait longtemps qu'ils sont censés sortir d'Afghanistan, les Américains, c'est bien que ça marche, c'est bien que c'est pas si facile.
Oui, c'est pas si facile, mais pour l'autre sens, ça semble être le cas où ça va se passer, on va vraiment sortir. On dit, enfin, je ne sais pas. Mais
c'est quelque chose qu'on a déjà entendu en 2009, en 2011, oui, en 2016.
Oui, mais il faut le dire, il y a une grande différence entre l'Afghanistan pour les Américains et le Sahel pour les Français, c'est que l'Afghanistan, c'est l'autre côté du monde, de la planète. Et ce qui se passe aux Afghans, c'est déplorable pour les Afghans. Si les talibans arrivent, ils vont massacrer les gens. Ils vont massacrer les gens. Ça va être un désastre, une catastrophe. Mais en dehors des questions humanitaires, ça ne touche à rien aux intérêts américains. Peu importe. Parce que c'est l'autre côté de la planète. C'est pas du tout, ça ne nous touche pas. Il n'y a pas de prix à payer, sauf la mauvaise conscience du fait qu'on était, en certain sens, responsable de souffrance du peuple. Qui est vrai, mais bon, ça va, on peut oublier ça facilement, ce qu'on fait toujours, malheureusement. Mais pour le Sahel, pour la France et le Sahel, c'est pas l'autre bout de la planète, c'est pas vraiment très loin. Et les liens sont là, c'est très important. C'est pas une question économique, je suis très hostile aux gens qui disent que les Français sont là pour l'uranium ou pour l'or, le pétrole, c'est la bêtise, ça n'a rien à voir, c'est stupide. Et le Tchad n'était jamais rentable en tant que colonie. Enfin, toutes les colonies n'étaient pas rentables, c'était mauvaise affaire toujours. Mais enfin, il y a des liens, il y a des liens de population, il y a des liens entre toute la région, la sur-région, la région, les pays africains, la France, tous les Africains qui vivent en France, tous les Français qui vivent en Afrique. Il y a la migration, il y a les déplacements de gens, il y a aussi le trafic des drogues, il y a des trafics de terrorisme, etc., etc., etc. Et tout cela pour dire que le désordre, la France ne peut pas rester indifférente au désordre dans la région, comme les États-Unis sont libres à être indifférents au désordre qui existe en Afghanistan. Il y a une différence. Et donc, quand je vois les Français dire que, ah oui, on peut faire comme les Américains qui sont en train de quitter l'Afghanistan, c'est pas la même chose. C'est regrettable pour la France, mais on est là.
Très bien. Merci beaucoup, Michael Shorkin, de nous avoir aidé à plonger dans cette question. Évidemment, on voit, on n'a pas répondu à toutes les questions qui se posent. On a même assez peu de réponses, mais ce serait inquiétant si on avait des réponses définitives à des problèmes si compliqués. Mais je pense quand même qu'à la fois on a pris du recul et on y voit beaucoup plus clair désormais grâce à vous. Merci aussi d'avoir fait cet entretien en français, avec un français qui était parfait et votre accent américain qui était très agréable. Non, si, c'était très bien. Je signale par ailleurs que beaucoup de vos publications, notamment sur Barkhane et sur le Sahel, sont disponibles sur le site de la Rand Corporation, et c'est toujours très instructif de voir ça depuis l'autre côté de l'Atlantique et un peu hors du contexte franco-français. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que tous vos retours sont les bienvenus, que ce soit par mail, réseaux sociaux, ou aussi par les notes et commentaires sur Apple Podcasts ou SoundCloud, qui sont lus et appréciés, comme le fait que vous propagiez la bonne parole et parliez des différents formats du Collimateur à ceux qui pourraient être intéressés autour de vous. C'est comme ça que le podcast continue de croître en audience. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.